les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le traduire en français, mais alors traduire les vers en vers, la prose en prose, et ces vers anglais en vers français classique. Bien sûr que l'on peut, que l'on doit le traduire, pourvu que la base du texte reste la même. Et la mise en scène, face à des Anglais un peu religieux devant lui, les Français auraient-ils moins de respect et plus d'audace? Et les décors, et les costumes, et les éclairages? Ne pas oublier que les spectacles du théâtre élisabéthain étaient brillants. Oui, la question « Peut-on traduire Shakespeare ?» était bien d'actualité le 1er décembre 1947 sur la chaîne parisienne dans le débat de la Tribune de Paris.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. De passage à Paris, Robert Speight est à notre micro. Le célèbre acteur anglais qui est aussi, on le sait, metteur en scène et romancier, nous parlera d'un sujet qui lui est particulièrement cher, la traduction et l'adaptation de Shakespeare. Interprète du rôle d'Hamlet, Robert Speight est attentif à la manière dont sont portées sur les scènes françaises les œuvres du plus grand auteur britannique.
Avec Robert Speight, nous accueillons ce soir le poète Jules Supervielle. Jules Supervielle, qui a traduit lui-même Shakespeare, nous fera part des observations qu'a suscité en lui la transposition d'une langue à l'autre d'une œuvre poétique.
Le poète Pierre-Jean Jouve, empêché, n'a pu rejoindre dans notre studio Robert Speight et Jules Supervielle. Il nous a toutefois envoyé une lettre dont Paul Guimard, qui va diriger l'entretien, lira les principaux passages.
Eh bien, nous voudrions, au début de cette conversation, demander à Robert Speight si, à son avis, les principes d'interprétation de Shakespeare, qui sont par exemple la simplification extrême du décor et du costume et l'enchaînement rigoureux des scènes sans aucune coupure, si ces principes donc sont également valables pour une mise en scène étrangère, c'est-à-dire dans le cas présent française, et pour une mise en scène anglaise. Robert Speight.
En effet, je le crois, monsieur. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a 2 années avec Jacopo, dans sa propriété en Bourgogne. Et nous avons parlé à ce moment-là, justement, du grand metteur en scène, Granville Barker, que vous avez connu ici à Paris quand il était directeur de l'Institut britannique à la Sorbonne,
oui,
bien avant la guerre. Et alors, ils se connaissaient très bien tous les deux, Louis et Coppo. Et Coppo m'a parlé avec une très vive admiration de Louis. Alors, vous l'avez là peut-être, si je ne me trompe pas, les deux metteurs en scène, peut-être les plus importants du temps moderne de nos deux pays.
Oui.
Et c'est Barker lui-même qui a fait une révolution dans l'interprétation de Shakespeare il y a 30 ans, bien avant l'autre guerre, quand il a inauguré sa saison au Savoy, n'est-ce pas, où il a monté les 3 comédies de Shakespeare, The Winter's Tale, La Rue des Rois et Un songe d'une vie d'été. Alors, il a fait une révolution qui était essentiellement un retour. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, n'est-ce pas, avec beaucoup de raisons, il s'est appuyé, n'est-ce pas, surtout sur cet enchaînement des scènes, sans aucune coupure, sur un décor dépouillé, n'est-ce pas, et surtout, parce que c'est cela qui importe, surtout, pas localisé, n'est-ce pas.
C'est
parce
ça,
que, comme vous savez bien, dans les pièces de Shakespeare, il s'agit souvent, il faut aller, n'est-ce pas, d'une rue à une chambre, à un palais, à un champ de bataille, n'est-ce pas, encore dans une rue, avec les toutes petites scènes qui s'enchaînent, n'est-ce pas. Il faut que ces scènes s'enchaînent pour que la tension de la pièce reste solide.
Autrement dit, vous estimez en Angleterre que les principes d'interprétation de Shakespeare doivent s'inspirer directement des traditions du théâtre élisabéthain.
Tout à fait.
Purement et simplement. Et vous
tout
estimez que c'est valable aussi pour la France.
Tout à fait, tout à fait.
Jules Supervielle.
Eh bien, je trouve que ce qui fait une des grandes caractéristiques de Shakespeare, c'est qu'il fait front de toutes parts, n'est-ce pas ? Et ce que disait M. Robert Speight tout à l'heure, pour la mise en scène, sur cette non-localisation du lieu me paraît aller très bien avec la qualité profonde de sa poésie. Il est place dans Shakespeare, me semble-t-il, pour des interprétations extrêmement différentes. Il s'ouvre largement aux compréhensions les plus opposées. Grâce à son don de vie, si merveilleusement fondu avec son don de poésie universelle.
Par conséquent, vous estimez qu'on peut avoir, mon Dieu, beaucoup de conceptions quant à l'interprétation et à la mise en scène d'une œuvre de Shakespeare. Vous ne pensez pas que ça doive être régi par des règles par trop strictes ?
Certainement pas. Je trouve que l'intimité de Shakespeare est assez vaste pour contenir les modalités les plus diverses et les mises en scène les plus différentes. Par exemple, j'ai assisté à deux mises en scène, à deux représentations de Shakespeare il n'y a pas longtemps, celle de Barrow, de Hamlet, qui m'a paru surtout une mise en scène psychologique et qui parfois a l'air même d'une mise en scène du monde intérieur. Elle est vraiment profonde et très suggestive, et aussi à une mise en scène différente, aérienne, extrêmement rapide, nerveuse et musclée, de Villars dans la cour du Palais des Papes et au théâtre des Champs-Élysées.
Robert.
Oui, ça m'intéresse, je suis tout à fait d'accord avec M. Supervial sur ces points-là. Vous savez, le théâtre moderne, tel que nous l'avons, résiste assez mal à une adaptation au principe du théâtre élisabéthain. Je ne veux pas paraître trop archaïque, n'est-ce pas, sur ce point. Je crois d'ailleurs qu'il faut se servir de tous les moyens, de toute la technique du théâtre moderne, de l'éclairage, même du décor, et surtout des costumes, parce que nous savons bien que les spectacles du théâtre élisabéthain étaient très brillants, sont des brillants spectacles, et même se font gris, se font neutres de cette scène, de ce plateau permanent, avait fait ressortir très bien la couleur et la splendeur des costumes. Alors je n'exige pas du tout une austérité, n'est-ce pas, pour les pièces de Shakespeare.
Oui, bien
ce, que j'ai, ce que j'ai dit, c'est une unité, n'est-ce pas. Et c'est une unité extérieure, comme a dit M. Supervielle, qui s'inspire profondément de l'unité intérieure des œuvres, n'est-ce pas.
Jules Supervielle.
Parfaitement. Je trouve en effet qu'il convient que les Anglais respectent, comme ils le font, si pieusement la tradition élisabéthaine revue à la faveur des siècles qui se sont écoulés. Mais il me semble, et c'est assez naturel, qu'il est intéressant de voir comment les Français, qui eux sont moins traditionnels en la matière, comprennent l'œuvre shakespearienne. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, M. Speight, et je trouve que les Anglais, qui sont comme devant quelque chose de religieux devant Shakespeare, sont parfois un peu timides dans la mise en scène. J'ai eu un peu cette impression.
Oui, tout à fait, de votre avis.
C'est-à-dire, vous pensez que nous autres Français avons moins de respect et un peu plus d'audace.
Peut-être parce que nous le connaissons moins, n'est-ce pas.
Mais alors, si vous voulez me permettre, jusqu'ici, Robert Speight, c'est le metteur en scène qui a parlé. Et je voudrais un peu que ce soit le comédien maintenant. Est-ce que vous estimez que les règles du jeu, si l'on peut employer cette formule, sont aussi valables pour un comédien anglais que pour un comédien français?
C'est justement la question que je me suis posée quand je suis allé à Genève tout récemment pour mettre en scène Antoine et Cléopâtre avec les acteurs suisses et avec la concurrence, le concours magnifique et brillant de M. Jean Martinelli et Mme Marie Ventura de la Comédie Française.
Oui.
Alors je me suis demandé si ces acteurs joueraient en français, n'est-ce pas, d'une façon que j'aurais exigé moi-même des acteurs anglais dans les mêmes circonstances. Alors, et je le trouvais presque exactement la même. Exactement la même.
Par conséquent, vous répondez oui.
Par conséquent, je réponds oui. Seulement, je crois que ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est justement la formation classique des meilleurs acteurs français. Pas Jean-Claude, M. Martinelli, qui a joué Antoine. Là, nous avions toute une formation classique. Et je me rappelle quelques gestes qu'il a fait qui étaient assez remarquables. et qui se sont inspirés, à mon avis, justement de cette formation classique. Par exemple, quand il s'apprête au suicide, n'est-ce pas, à la fin, oui. il laisse son armure sur la terre, il le regarde et il dit alors à Dieu, parfois je vous ai noblement porté, n'est-ce pas, quand il s'adresse à son armure. Les vers anglais sont très beaux dans ce passage. Elle lui a fait un geste de salutation, un geste à Dieu qui était vraiment très très belle à ce moment-là. Et dans la même scène, je me rappelle aussi quand il a dit « tout est consommé », il s'est entendu dans tous de ses bras, n'est-ce pas, vraiment comme une crucifix, n'est-ce pas. C'est extraordinaire, il a fait que c'était remarquable, ça.
Alors, si vous admettez, M. Speight, cette identité de jeu de tous les acteurs du monde, ensemble, puisque ce qui est valable pour les Français est vrai pour tous les acteurs, je voudrais vous poser une colle, et je m'en excuse d'ailleurs, mais elle n'est pas de moi, elle est de Pierre-Jean Jouve, qui devrait se trouver avec nous aujourd'hui, mais qui est malheureusement retenu, et qui m'a écrit ceci. Sans vouloir en quoi que ce soit diminuer le grand mérite de certains travaux, je crois devoir poser une double question de principe, qui mécontentera les uns, plaira aux autres, et qui d'ailleurs dépasse le cadre littéraire français. La première question est celle-ci. Pour notre temps, et avec les moyens d'intuition que nous employons, un ouvrage poétique ne peut être rendu qu'en poésie, c'est-à-dire dans une langue qui a subi un profond travail d'organisation, et jamais dans la prose courante. Voilà ce que notre esprit demande. Ouais. Deuxième point, la poésie de la traduction doit être vivante, répondre aux sensibilités du temps où elle est écrite, et ne jamais prétendre à la reconstitution historique, ni une fantaisie de modernisme, ni un plagiat de formes anciennes. Et par conséquent, voilà où tend ma question. Si un comédien anglais et un comédien français n'ont pas le même support, n'ont pas le même texte, n'ont pas un texte inspiré par la même poésie, comment peut-on prétendre que cependant les règles de jeu doivent être les mêmes? Robert Speight.
Alors, ça c'est intéressant, mais je crois que dans une traduction de Shakespeare, même si toute la forme des vers est tout à fait différente, n'est-ce pas, qu'il soit en prose, n'est-ce pas, qu'il soit dans un vers libre, n'est-ce pas, non, n'importe quelle forme des vers, je suis tout à fait d'accord, je n'exige pas la même formation des vers pour la traduction de Shakespeare, pas du tout, n'est-ce pas, au contraire. Mais je crois que pourvu que la base du texte reste la même, n'est-ce pas, les principes du jeu restent les mêmes également.
Bien.
Oui, parce que Shakespeare ne nous lâche pas.
Non, il nous
tient par la main,
absolument.
Ce sont les femmes les plus diverses, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Et alors, je voudrais également vous citer un autre passage de la lettre de Pierre-Jean Jouve, qui nous dit « Shakespeare n'est pas traduit en français, comme il l'est par exemple en allemand dans la traduction romantique de Schlegel, parce que jamais un traducteur n'a osé embrasser l'ensemble dans une forme poétique, reproduisant le vers en vers et la prose en prose. Car le drame shakespearien est écrit en vers et en prose. Ce double rythme est essentiel dans l'ouvrage prodigieux de Shakespeare qui réunit les plus intenses moments dramatiques, les vues métaphysiques de l'esprit et la puissance lyrique d'une poésie. Il est bien entendu, conclut Pierre-Jean Jouve, que tout doit être traduit. Jules Supervielle.
J'estime en effet que Jouve a absolument raison et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma traduction de « Comme il vous plaira ». J'ai traduit en effet les vers en vers et la prose en prose. Les vers en vers non rimant en général, sauf dans les chansons où la rime me paraissait indispensable, même si elle ne rappelait en rien celle de l'anglais. Mais je trouve que cette forme est en effet importante et qu'il faudrait arriver à traduire toujours la poésie en poésie et la prose en sa prose habituelle.
Par conséquent, vous êtes d'accord avec Pierre-Jean Jouve lorsqu'il nous dit « Selon moi, le parti pris de traduire Shakespeare en prose est une hérésie ». Vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord. Oui.
Mais vous êtes également d'accord lorsqu'il ajoute « D'autre part, il ne peut être question d'appliquer à la poésie de Shakespeare le système du vers classique français ».
Mais je suis d'autant plus d'accord que je viens d'assister à la lecture d'une excellente traduction de Henri V de Clavel, qui est également en vers et en prose.
Ah oui.
Robert Speight.
Oui, alors, monsieur, ce n'est pas à moi de passer un jugement, de faire un jugement sur la tradition française.
Vous pouvez au moins servir d'arbitre.
Je suis ici, n'est-ce pas, entre deux amis, monsieur Superviel, et je suis avec monsieur Pierre-Jean Jouve en esprit, n'est-ce pas, qui ont tous les deux fait des traductions qui me semblent admirables. Justement, l'autre jour, j'ai lu, même j'ai essayé de lire d'ailleurs, la tirade de Jacques, donc comme il vous plaira, de monsieur Superviel, et justement, la tirade de Roméo et Juliette avant qu'ils se tuent, n'est-ce pas, puis qu'ils prennent la poison dans le tombeau de Juliette, n'est-ce pas. Et là, je crois que tous ces grands poètes français modernes ont justifié leur parti pris dans cette question-là, absolument.
Oui, et d'ailleurs...
Mais ce que j'exige, parce que je crois que dans tous les cas, n'est-ce pas, j'ai trouvé une ici qui m'a plu, n'est-ce pas, parce que c'est le seul point que je peux vraiment juger. J'ai trouvé une fidélité agonisante, n'est-ce pas, en suivant, n'est-ce pas, le sens
littéral.
Le vrai sens littéral de Shakespeare. Et je méfie énormément des traducteurs qui disent, alors il faut adapter Shakespeare à l'esprit latin, n'est-ce pas, à l'esprit français, à l'esprit allemand, n'est-ce pas, n'importe quoi.
Oui. On a l'impression que Shakespeare s'adapte tout seul, que c'est lui qui fait le travail.
Exactement, justement.
Et d'ailleurs, Pierre-Jean Jouve ajoute encore une chose qui est très intéressante et qui rejoint exactement vos conclusions à l'un et à l'autre, lorsqu'il dit, dans la traduction de poésie, quel est le vrai fond des choses? Il s'agit alors plus que d'une version rigoureuse, d'une équivalence et de la découverte d'une substance commune, en quelque sorte indépendante de la langue. De telle sorte que cela expliquerait très bien votre théorie selon laquelle et la mise en scène et le jeu doivent répondre au même principe, quelle que soit la langue, si l'on admet que la traduction doive dégager la substance même de Shakespeare beaucoup plus que le mot ou l'expression shakespearienne. Vous êtes d'accord, Jules Superviel?
Mais oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que la substance peut très bien passer d'une langue à l'autre. Elle passe même beaucoup plus facilement dans Shakespeare que, il faut bien le dire, dans nos grands classiques français.
Vous pensez qu'on n'adapte pas Shakespeare parce que Shakespeare est déjà adapté?
Oui, mais oui.
C'est ce et parce qu'il est Shakespeare.
Il s'adapte lui-même.
Il s'adapte lui-même. Il a un don d'adaptation absolument prodigieux. Il se moule à la langue, n'est-ce pas?
Eh bien, je voudrais vous proposer pour conclusion, et je suis persuadé que vous serez d'accord, ce mot de Victor Hugo que nous cite Pierre-Jean Jouve. Shakespeare, qu'est-ce? On pourrait presque répondre, c'est la terre.
J'y ajouterai aussi le ciel.
Et quelquefois l'enfer.
Robert Speight, Jules Superviel et dans une lettre Pierre-Jean Jouve ont discuté quelques problèmes soulevés par la traduction et l'adaptation de Shakespeare.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Et nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Yeah.